Voilà, gloire au Seigneur. Bonjour, chers frères et sœurs. J'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu donc pour poursuivre sur ce partage que nous avons commencé dimanche dernier sur le péché. Donc c'est un vaste sujet. On a vu quelques aspects. On a vu tout d'abord les conséquences du péché. Je vous les rappelle peut-être pour ceux qui étaient là puis ceux qui n'étaient pas là. Nombreuses conséquences. Le péché produit la convoitise. Le péché produit la culpabilité. Il enlève la vigueur, il nous cache la face de Dieu. Le péché produit toutes sortes de privations. On a vu des privations sur le plan matériel aussi bien que sur le plan spirituel. Le péché nous rend esclaves, il nécessite un châtiment de la part de Dieu et le péché produit la mort. Et puis nous avons parlé de ce que nous devons faire dans une deuxième partie par rapport au péché. Il nous faut le confesser, il nous faut nous repentir de nos péchés, ne pas y participer, le rejeter, lutter contre le péché, tout cela, on a vu tous les versets qui concernent ce sujet. Troisième partie ce matin. Donc, ce que Jésus a subi à cause du péché. Ça sera la partie que nous verrons ensemble. Et le premier point, nous verrons un premier verset, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4 et au verset 15. Hébreux, chapitre 4, verset 15, premier point. Ce que Jésus a subi à cause de nos péchés, eh bien, il a subi la tentation. Il a été éprouvé dans la tentation. Hébreux 4, 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Il a été tenté comme nous en toutes choses. Effectivement, Jésus a subi cet aspect humiliant que nous connaissons, qui est la tentation. Évidemment, en tant que Dieu, il n'avait pas besoin, lui, de connaître la tentation, mais c'est parce qu'il s'est fait homme. Et le récit de Matthieu nous le montre bien, dans les évangiles, on le voit, que Jésus a été tenté par le diable. À trois reprises, Satan est venu vers lui, il a voulu que le Fils de Dieu se prosterne devant lui, il a voulu que Jésus commette un péché pour ne pas accomplir son œuvre à la croix. Mais Jésus n'était pas obligé de vivre ces choses finalement. Il aurait très bien pu rester dans la gloire, dans le ciel. Si Jésus est descendu sur terre, c'est pour nous, c'est pour qu'on puisse sortir de notre situation de péché. Et il nous a montré aussi que la victoire est possible sur le diable. Si nous avons la foi, si nous nous tenons dans la prière, si nous nous tenons en Christ, la victoire est possible sur Satan. Alors ça veut dire que le péché... en nous qui sommes chrétiens, n'est pas forcément automatique. On peut prendre des victoires sur le péché. Il s'est présenté comme le second Adam. Le premier Adam a échoué. Adam, il a été tenté et il a péché. Adam et Ève ont péché. Mais Jésus a été tenté, le second Adam. Il a triomphé de la tentation et ainsi, bien, il a accompli, si vous voulez, ce qu'Adam n'a pas fait. Jésus l'a fait. Il est dit qu'il est souverain sacrificateur, au verset 15, on l'a lu ce verset. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Jésus est donc un souverain sacrificateur qui est l'intermédiaire, dans l'Ancien Testament, c'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'était le souverain sacrificateur. Sa fonction la plus importante était d'entrer une fois dans le lieu saint, le lieu très saint plutôt, pour offrir, pour répandre du sang, dans ce lieu-là, en signe d'expiation pour lui et pour le peuple. Jésus, donc, était parfait. Il était sans péché, il n'avait pas besoin de verser son sang pour lui-même, bien sûr. Mais il s'est présenté avec son propre sang pour effacer les péchés du monde entier. C'est donc la même chose que faisait le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Jésus l'a fait, mais d'une manière définitive, dans le Nouveau Testament. Alors, Jésus comprend nos faiblesses. Parce qu'il a été pleinement tenté comme nous pouvons l'être. Il a connu aussi la fatigue, il a connu la faim, la soif, toutes sortes de limitations. Et on le sait, on peut mieux comprendre quelqu'un qui souffre ou qui passe par une épreuve quand nous-mêmes, on est passé par la même épreuve. C'est un petit peu la même chose pour Jésus. Il a connu la tentation, donc ce texte nous dit, du fait qu'il a été tenté, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché, du fait qu'il a été tenté, donc il peut mieux comprendre ce que nous vivons, ce que nous traversons. Jésus a été tenté à tous égards, humilié plus bas que terre. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il n'a jamais rendu le mal pour le mal. Il a toujours résisté à la tentation, toujours résisté aux paroles mauvaises, aux mauvaises pensées. Pas de haine dans son cœur. Et il est resté parfait en tout point. Deuxième verset, deuxième point donc. Il a souffert à cause de nos péchés. C'est écrit dans 1 Pierre 3,18. Deuxième verset que nous pouvons partager ensemble. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Christ aussi donc a souffert. Et ici l'apôtre Pierre fait allusion aux souffrances que Jésus a subies à la croix. Il a souffert terriblement, d'une manière extrême, puisqu'il y a eu trois sortes de souffrances. D'abord les souffrances physiques. Jésus a souffert physiquement à la croix, c'était un véritable objet de torture. C'était précédé par des coups de fouet d'ailleurs. Donc son dos était lacéré de coups, de blessures, il souffrait dans son corps. Et bien sûr les clous ont transpercé ses mains et ses pieds. On a retrouvé, j'ai vu quelques images d'ossements qui ont été percés comme cela par des clous. C'est très impressionnant la taille des clous, des énormes clous qui faisaient souffrir énormément le crucifié. Et puis on sait que la mort sur la croix, c'était une mort très lente. D'ailleurs ils ont abrégé, en tout cas en ce qui concerne les deux malfaiteurs qui étaient à côté de Jésus. Ils ont voulu abréger leur souffrance à cause du sabbat qui venait, mais ils auraient pu passer toute la nuit encore sur la croix, voir certains arriver à tenir assez longtemps comme cela, parce que petit à petit, ils s'affaissaient et la cage thoracique se refermait sur eux, ils s'étouffaient donc comme une longue agonie, une longue asphyxie, et ils mouraient d'une manière misérable. En plus, des animaux pouvaient les attaquer, pouvaient rien faire, des oiseaux pouvaient venir sur eux, c'était quelque chose de terrible. Souffrance physique. Christ a souffert, voilà ce qu'il a subi. Christ a souffert moralement. Vous savez que les disciples l'ont abandonné ce jour où il a donné sa vie à la croix. Bien que Pierre lui-même, le premier, avait dit « Mais Seigneur, même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. » Mais quand Jésus était crucifié, Pierre, il n'était pas là. Il n'y avait plus que Jean, la mère de Jésus. Tous les disciples s'étaient évanouis dans la nature. Ça, c'était quand même moralement assez difficile à supporter, parce que les disciples, c'était ses compagnons, c'était ses amis de route, et ils ne l'ont pas accompagné jusqu'à la croix. Jésus a subi des insultes, des crachats, ceux qui étaient là se moquaient de lui. Vous savez que les gens lui disaient « Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix, montre-le-nous », et ils le critiquaient, ils se moquaient. Donc souffrance morale, puis Jésus, lui, ne répondait pas. Vous imaginez, il était là. Alors qu'il aurait pu tout faire à ce moment-là même, mais il n'a pas répondu à ses moqueries. Souffrance spirituelle. Lorsque Jésus a vécu l'abandon de Dieu, je dis bien qu'il a vécu l'abandon de Dieu, pas simplement ressenti. Il nous arrive, nous, de ressentir que nous sommes abandonnés de Dieu. On a l'impression qu'on est abandonné de Dieu. Mais Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Sur la croix, c'est une souffrance spirituelle. Parce que du fait que Christ a été fait péché pour nous, Dieu s'est détourné de son Fils quelques instants, alors qu'il portait nos péchés. Jésus a subi toutes ces souffrances, et il mérite vraiment toute notre reconnaissance ce matin, toute notre adoration, parce qu'il en est digne. Il a été victorieux sur le péché, il n'a pas répondu à ses ennemis, enfin à ces gens qui le crucifiaient, il les a aimés. Lui qui était parfait, il n'avait aucun besoin de passer par la souffrance ou par la mort, mais il l'a fait par amour pour chacun d'entre nous, béni soit son nom. Il a éprouvé la tentation, il a souffert. Troisièmement, il s'est donné lui-même. Galates, chapitre 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Alors ce verset développe ici un aspect très important de l'œuvre de Christ, à la croix, de sa mort. Car il nous faut bien réaliser, frères et sœurs, que Jésus n'a pas été tué, mais Jésus a donné sa vie. C'est une nuance importante. Pourquoi ? Parce que Jésus est comparu devant Pilate. Il a été, il est passé, si on peut dire, devant un tribunal. Un tribunal qui a rendu son jugement. Pilate a demandé de la foule. La foule a demandé qu'on relâche Barabbas. Et c'est donc le jugement qui est tombé sur Jésus. Jésus va être crucifié. Pilate lui-même pensait avoir le pouvoir sur Jésus de le crucifier ou de le relâcher. Il lui dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, il dit, mais moi, tu sais que j'ai le pouvoir sur toi de te crucifier ou de te libérer. Sous-entendu, il dit à Jésus, tu ferais bien de me répondre d'une manière correcte. Et Jésus lui dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Donc ce Pilate, certes, il pensait avoir certains pouvoirs, il était d'ailleurs procurateur de Judée, il avait des légions sous ses ordres, et il pouvait imposer son autorité. Mais Jésus, à tout moment, il pouvait appeler 12 légions d'anges, dit la parole de Dieu. 12 légions d'anges seraient venus à son secours et l'auraient libéré. C'est pourquoi ce n'est pas Pilate qui avait pouvoir sur Jésus. Mais Jésus avait quand même pouvoir sur Pilate, et Jésus voulait donner sa vie. Donc Jésus allait vers le sacrifice et a accepté la mort. Autrement dit, c'est Dieu qui a permis que Pilate puisse crucifier Jésus. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Jésus dit à Pierre au moment de l'arrestation, lorsque Pierre va tirer son épée, vous savez, pour essayer de libérer Jésus, comme si nous pouvions, libérer Jésus. Eh bien, il a maladroitement coupé l'oreille d'un soldat, et à ce moment-là, quand Jésus a dit « c'est moi », la Bible dit qu'ils sont tombés en arrière. On voit bien qu'il y avait de la puissance dans Jésus, que même à ce moment-là, il aurait pu les exterminer, tous ces soldats qui venaient l'arrêter. Mais il les a laissés se relever et il s'est laissé arrêter. Donc Jésus, vraiment, s'est donné. Ce ne sont pas les Romains qui ont tué Jésus, ils n'en avaient pas le pouvoir, mais c'est Jésus qui a donné sa vie. Et dans l'évangile de Jean, il le dit directement, dans Jean 10 et au verset 11, il est écrit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et puis au verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Bon, ben, Jésus explique tout à l'avance, il dit « Voilà, je vais donner ma vie. » Et puis je vais ressusciter. Personne ne me l'ôte, ce n'est donc pas Pilate ou les Romains qui ont fait quoi que ce soit, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors on comprend bien ce qui s'est passé, donc Jésus a donné sa vie, mais à cause de nos péchés. Quatrième point, Jésus a été blessé et brisé à cause de nos péchés. Ésaïe chapitre 53 et verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, quatrième chose que nous voyons que Jésus a subi, il a été blessé. Il a été brisé. Si on regarde attentivement ces termes, surtout le premier, il était blessé, c'est un terme qui est traduit de trois manières différentes. Et suivant la version que vous avez sous les yeux, vous le verrez, soit il était transpercé pour nos péchés, soit il était déshonoré à cause de nos péchés, ou soit, la version qu'on a lue, il était blessé pour nos péchés. Il était transpercé parce que, par exemple, la version Second Révisée, il était transpercé à cause de nos crimes. Eh bien, ceci évoque directement la crucifixion, puisqu'il y a eu réellement les clous qui ont percé ses mains. À cause de nos péchés, son sang a coulé. Et si on étudie un petit peu le parcours de Jésus jusqu'à la croix, on se rend compte que le sang de Christ a coulé à 5 reprises. La première fois, il a coulé dans le jardin de Gethsémané, où Jésus était en train de prier. Son père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et dans ce combat spirituel, il est dit que le sang a coulé de son front Et c'est, disons que sa sueur, en fait, s'est transformée en sang qui sont tombés par terre, comme des gouttes qui tombaient par terre. Ce qui signifie qu'il y avait un tel combat en lui que le sang a fouetté jusqu'au visage et est sorti par les pores de la peau. C'est donc quelque chose de très puissant que Jésus a vécu dans ce combat spirituel qui le menait vers la croix. Deuxièmement, Jésus a versé son sang quand il a été fouetté. On sait que les fouets romains étaient faits de telle manière qu'ils permettaient que le dos se déchire et que le sang soit répandu. C'était une manière de préparer le crucifié aux tortures qu'il allait subir. Troisièmement, ils lui ont placé une couronne d'épines. Il faut savoir que les épines en Israël mesurent de 5 à 15 cm. C'était des grosses épines énormes qu'ils ont enfoncées sur sa tête. Quatrièmement, ils lui ont mis des clous dans les mains et dans les pieds. Son sang a à nouveau a coulé. Et la cinquième fois où le sang a coulé, c'est quand ils l'ont transpercé avec une lance sur le côté. Et donc, encore du sang est sorti de Jésus. On peut dire que le sang était vraiment abondant. C'est vrai qu'on a du mal à se représenter. Quand on le voit sur certaines représentations ou images, il y a finalement, somme toute, assez peu de sang sur Jésus. Mais si on ne parle que ne serait-ce que de sa couronne, le sang coulait sur son visage et sur son corps entier. Et c'était quelque chose de terrible à voir. Donc, Jésus a été transpercé. Il a été déshonoré. Je vous disais un autre sens de blessé. Il a été déshonoré à cause de nos révoltes. Le péché déshonore Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus est parfaitement pur. Il est parfaitement saint. C'est un petit peu comme si on prend un linge blanc, immaculé, et qu'on jette de la boue dessus. Jésus a été souillé. Jésus a été déshonoré d'une certaine manière. Lui qui était saint et juste a été couvert de péché. On ne dit pas que Jésus a péché lui-même, mais il en a été revêtu, il en a eu le contact. Le brisement dont il est question ici, dans la deuxième partie du verset, « brisé pour nos iniquités », littéralement signifie « il était brisé, écrasé, abattu, humilié ». La mort de Jésus a été vraiment violente. C'était un brisement à tout niveau. Et il n'a eu aucun répit entre l'agonie de Gethsémané jusqu'à la croix. Il n'a eu que souffrance, injures, insultes, moqueries. La crucifixion, c'est donc cela. Jésus a été broyé d'une manière infâme, comme un criminel, lui qui était innocent. Et même les Romains interdisaient de crucifier un citoyen romain. C'était tellement ignoble comme mort. Jésus a accepté la croix donc pour trois raisons. Premièrement, il a accepté la croix pour endosser notre châtiment. On l'a sous les yeux, le verset qui nous dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui ». Et si vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière, il y avait une des conséquences du péché, le péché nécessite un châtiment. Eh bien, c'est Jésus qui a pris le châtiment, qui était la conséquence du péché, il l'a pris sur lui, alors qu'il devait tomber sur nous. Voilà. Deuxièmement, il a accepté la croix pour nous donner la paix. Nous étions ennemis de Dieu, en guerre avec Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 19 nous dit que Christ nous a réconciliés. Colossiens chapitre 1. Et le verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc Jésus a voulu nous réconcilier avec Dieu en faisant la paix par le sang de la croix. Tout est bien expliqué. Et puis, il a accepté la croix aussi pour nous accorder une totale guérison. Le verset nous dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Guérison physique, guérison morale, guérison spirituelle. On le voit très bien dans les évangiles, notamment le possédé de Gadara. Quand il a été délivré, il était assis aux pieds de Jésus. Donc, c'est une guérison spirituelle. Il était dans son bon sens. Guérison morale, il était totalement libéré de ces choses mauvaises qui étaient en lui, mais une guérison physique, tout était accompli. Cinquième point, Jésus a été frappé. Alors nous lisons Ésaïe chapitre 53 et au verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et par le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Il a été frappé. Alors quand on lit les évangiles, on voit que Jésus a été frappé à de nombreuses reprises. Il a été maltraité par les Juifs. Les Juifs l'ont frappé. Ils lui ont donné des coups de poing, ils lui ont donné des soufflets, c'est-à-dire des claques, et puis ils lui disaient « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé ». Ainsi, ils se moquaient de Jésus qui se présentait comme prophète. Les Romains ont frappé Jésus et se sont moqués de sa royauté, car Jésus s'est présenté comme roi. Et ils lui ont mis une couronne d'épines pour simuler une sorte de roi. Et avec un roseau qui simulait le sceptre du roi, ils ont frappé sur la tête du Seigneur pour que la couronne d'épines s'enfonce dans sa tête et qu'ainsi le sang soit répandu. Malgré toute cette violence, tous les coups, la Bible nous dit que Jésus n'a pas ouvert la bouche. Il est resté muet, comme une brebis qui va à l'abattoir. C'est vrai que naturellement, on aurait été poussé à être révolté, à dire quelque chose. Jésus ne l'a pas fait. La Bible nous dit même qu'il priait. Il priait pour ses bourreaux. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il priait pour que ses ennemis même soient pardonnés. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il encaissait les coups. Lui, il recevait des coups et il donnait de l'amour. Et il donnait des bénédictions. Il était maudit et il bénissait. Un texte dans 1 Pierre chapitre 2. Nous le dit dans la bouche de l'apôtre Pierre ici, 1 Pierre chapitre 2, verset 21, dit ceci, car, 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Lui qui maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés, etc. Donc on voit qu'il subissait, il encaissait, il recevait, mais en retour, il donnait de l'amour, il bénissait, il priait pour ses ennemis, et même le Seigneur nous dit dans cette parole qu'il nous a laissé un exemple, afin que nous-mêmes, si on nous critique, si on nous jette des coups, si on nous maltraite, eh bien que nous puissions quand même, avec l'aide de Dieu, bénir ceux-là même qui nous font du mal, et ne pas maudire, ne pas faire du mal à autrui, malgré le mal qu'on peut nous faire à cause du fait qu'on est chrétien. Sixième point, Jésus a livré sa vie en sacrifice. Alors nous trouvons un texte dans Ésaïe chapitre 53 et au verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ce que Jésus a subi à cause de nos péchés, il a livré sa vie en sacrifice. Le sacrifice pour le péché existait déjà dans l'Ancienne Alliance, c'était une ordonnance de Dieu. Et donc régulièrement, le peuple, les sacrificateurs, apportaient des sacrifices pour le péché. C'était quelque chose d'habituel. Cependant, dans toute la parole, à aucun endroit vous ne verrez que Dieu a demandé d'offrir un être humain en sacrifice pour le péché. C'était toujours des animaux. Que ce soit des taureaux, des boucs, des pigeons, pour ceux qui n'avaient peu d'argent, Dieu n'a jamais demandé de sacrifice humain. Par contre, à l'époque, un autre dieu qui s'appelait Moloch, un faux dieu bien sûr, exigeait des sacrifices humains, sacrifices d'enfants notamment. Donc, c'est le seul texte dans la parole où il est question ici d'une personne qui va souffrir en sacrifice pour le péché. Et déjà, ça préfigure l'œuvre de Christ qui va venir. Ce texte est assez incompréhensible pour les Juifs, puisque Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Et pourtant, ce texte nous dit, dans le verset qu'on a lu ensemble, « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Et donc, il ne s'agit pas d'un animal, il s'agit ici de Jésus, qui va accomplir cette prophétie, qui est impensable, mais qui est pourtant de Dieu, puisque Dieu l'a accompli. Même lorsque Dieu a demandé Isaac en sacrifice, on sait très bien qu'au dernier moment, Dieu a arrêté Abraham pour qu'il ne tue pas Isaac. Donc, le sacrifice humain était banni dans la parole de Dieu. Mais le Messie était parfaitement homme et parfaitement Dieu, et il s'est livré en sacrifice pour le péché. L'Ancien Testament nous montre le caractère unique de l'œuvre de Christ, qui était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ici, en tout cas dans ce verset, on le voit très bien. Septième point, il a porté nos péchés. Ésaïe chapitre 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Je vous cite un autre verset, 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Donc à plusieurs reprises, c'est marqué que Jésus a porté nos péchés. Jésus l'a fait, étant parfaitement pur, il s'est chargé de nos péchés. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, bien que lui-même parfaitement innocent. Il est apparu faible et misérable, bien que lui-même il était tout puissant et il pouvait avoir la victoire sur tous ceux qui lui voulaient du mal, il pouvait leur fermer la bouche instantanément. On ne peut saisir finalement le poids que Jésus a dû porter. Déjà, on a du mal à saisir le poids de nos propres péchés, parce que c'est quelque chose de lourd à porter. Mais Jésus, la Bible nous dit qu'il a porté non seulement les péchés que nous représentons ce matin, mais ceux du monde entier. Les péchés du monde entier. Le texte de Pierre nous dit qu'il a porté les péchés du monde entier. Donc c'est quelque chose d'énorme, un fardeau que nul être humain ne pourrait porter. Alors le texte de Pierre nous dit qu'il a élevé nos péchés. C'est un verset qui signifie que Jésus les a présentés à Dieu. Il les a comme mis sur un autel. C'est un petit peu ça la symbolique. Parce que dans l'Ancien Testament, la victime innocente était portée sur l'autel et les péchés des personnes étaient projetés sur cette victime, mais d'une manière symbolique. Tandis que pour Jésus, ça a été concret. Je vous lis Hébreux chapitre 10, verset 1 pour vous montrer cela. Hébreux chapitre 10, verset 1. Ça, c'est les sacrifices de l'Ancien Testament qui étaient provisoires et imparfaits. En effet, la loi qui possède l'ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Et puis si on lit le verset 4, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Alors effectivement, dans l'Ancienne Alliance, il le faisait, il devait le renouveler sans cesse parce que c'était impossible que ça efface définitivement les péchés, il fallait le recommencer, c'était imparfait, c'était provisoire. Par contre, dans le verset qu'on a lu dans Ésaïe 53 et 1 Pierre 2, 24, ce verset nous montre que c'est Jésus qui est la victime innocente, ce n'est plus donc un animal. Les péchés ne sont plus symboliquement placés sur lui, mais réellement portés par Jésus. Il les a montés sur l'autel et il les a placés devant Dieu, donc nos péchés à notre place. et ce sacrifice est unique, parfait et permanent. C'est Hébreux chapitre 10, verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir souffert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il y a un parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament, sauf que maintenant, ce que Jésus a fait est unique et parfait. Huitième point, la Bible nous dit que Jésus est devenu péché pour nous, à cause de nos péchés. Voilà ce qu'il a subi. 2 Corinthiens 5:21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et la parole vivante traduit ainsi, « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché, pour que dans sa communion, nous puissions être agréés, étant revêtus de la justice de Dieu. » Si nous considérons un instant la personne de Jésus, telle que nous pouvons la connaître au travers des Écritures, nous voyons qu'il était pur, qu'il était saint, qu'il n'avait aucune communion avec le péché. Sa vie en tout point était irréprochable. Et la Bible nous dit que celui qui était pur, sans péché, ben, il a été fait péché pour nous. C'est un verset qui va vraiment très loin, puisque Jésus, effectivement, a été fait péché. C'est quelque chose de très fort, ce verset. Ainsi, Dieu a puni notre péché parce que Jésus l'a porté. Quand Jésus était sur la croix, voyez, il portait vos péchés, mon péché. Eh bien, Dieu a puni Jésus à cause de nos péchés. Vous vous rendez compte que le châtiment, il devait tomber sur nous. À cause du péché que nous méritions, tous, nous devons passer devant le tribunal de Dieu. Et tous, nous devons être condamnés à l'enfer. Mais parce que Christ s'est présenté entre nous et Dieu, eh bien, il a été fait péché pour nous. Eh bien, nous avons accès au ciel. Jésus a pris notre place. Il a non seulement ôté notre condamnation, nous dit ce texte, mais la fin nous dit « afin que nous devenions en lui justice ». C'est-à-dire qu'il a effacé notre condamnation devant Dieu. Maintenant, nous sommes acquittés, mais en même temps, il nous a rendus justes aux yeux de Dieu, c'est-à-dire que son sang nous a couverts et Dieu voit le sang de Christ en nous, si vous voulez. Son sang qui a coulé, bien, nous protège, efface nos péchés aux yeux de Dieu et empêche la colère de Dieu de nous atteindre. Neuvième point, neuvième chose que Jésus a subie, il s'est offert en victime expiatoire. 1 Jean chapitre 2, verset 2, « Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » 1 Jean chapitre 4, verset 10, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Alors cette expression « victime expiatoire », qu'est-ce que ça signifie? C'est une notion que l'on n'évoque pas souvent et qui signifie « apaiser » en réalité. Apaiser, faire propitiation. Alors c'est un terme qui signifie de rendre Dieu favorable à notre égard. Pourquoi est-ce que Jésus a voulu rendre Dieu favorable à notre égard? Est-ce que Dieu n'était pas favorable? Non, à cause du péché, il était en colère. Tout cela, c'est expliqué dans Romains chapitre 1, verset 18. Mais il faut peut-être le reprendre quand même. Parce qu'on parle pratiquement 99% du temps que Dieu est amour, que Dieu aime tout le monde, etc. Mais néanmoins, il est une réalité qui est incontournable dans la parole, c'est que il y a une colère de Dieu contre le péché. Romains chapitre 1, verset 18. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » La colère de Dieu. Je vous lis qu'un verset, mais c'est à plusieurs endroits. Cette colère existe. Elle pourrait nous réduire en poussière. Dieu pourrait nous punir pour nos péchés et nous obliger à aller en enfer. Mais Jésus, voici ce qu'il a fait. Il s'est placé entre nous et Dieu et il a rendu Dieu propice. C'est la propitiation, c'est l'expiation qu'on a lu, dont on a lu le verset tout à l'heure. Et c'est Jésus qui a subi la colère de Dieu à notre place. Parce qu'il faut bien comprendre que la colère de Dieu, elle existe. Et elle est tombée sur Jésus. Et oui. Et ainsi, nous ne sommes pas écrasés, nous ne subissons pas la colère de Dieu, mais nous subissons la grâce. Enfin, nous sommes au bénéfice de la grâce, si vous voulez, de Dieu. Imaginez un instant si nous devions subir la colère de Dieu. On serait mort sur place. Au lieu de sa colère, nous bénéficions de son amour grâce à l'œuvre de Christ à la croix. La propitiation ne s'étend pas seulement aux rachetés, nous dit ce texte, mais c'est pour les péchés du monde entier. Donc Jésus a tout accompli pour tous. Et puis je termine avec le dixième point. Ce que Jésus a subi, il est mort. Romains chapitre 6, verset 10. Car il est mort et c'est pour nos péchés, le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. Alors voilà la conséquence ultime de nos péchés, bien que ce que Jésus a subi, c'est qu'il est mort. Il est mort, il a non seulement souffert, il a été maltraité, malmené, mais il est passé par le tombeau. Lui qui était juste, il a été traité comme un criminel. La Bible nous dit qu'il a été mis au rang des malfaiteurs. C'est d'une mort violente qu'il a été crucifié. Lui qui était doux et humble, bien les hommes se sont acharnés sur lui. C'est une mort incompréhensible. Lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus est la vie. Comment est-ce possible que Jésus meure? D'ailleurs, les disciples ne croyaient pas qu'il allait mourir. Ils ne croyaient pas que c'était possible. Mais alors quand Jésus est mort, ils ont été complètement effondrés. Parce que pour eux, tout était fini. C'était quelque chose d'impossible. Jésus est mort une fois pour toutes. Personne n'aura plus besoin d'y revenir. Le péché a perdu son pouvoir. Il a été vaincu à la croix par l'œuvre de Christ. C'est vrai que Jésus est mort, mais en même temps, en mourant, il a fait mourir le péché, si je puis dire. Le Sauveur est resté 3 jours dans le tombeau. Et il est sorti vivant le matin de Pâques. Donc ce verset nous montre qu'il n'est pas resté dans la mort. Les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. Mais Jésus est ressuscité d'une manière miraculeuse. Béni soit son nom. Il est apparu vivant. Nous croyons que Jésus est ressuscité, qu'il a remporté la victoire sur le péché, sur la mort, et qu'il nous a délivrés de cette puissance du péché. Alors on va prier un instant. En conclusion, Jésus a pris sur lui la conséquence de nos péchés. Il a subi la condamnation à notre place. Il nous a réconciliés avec Dieu. On va prier un instant. Jésus est là, peut-être pour toi, qui es pécheur, qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur. Bien, nous avons vu ensemble dans la parole tout ce que Jésus a subi à cause de toi, à cause de moi, mais à cause de chacun d'entre nous. Lui juste, eh bien, il a subi l'injustice, mais il l'a fait pour toi, pour te libérer du péché. Béni soit le Seigneur. Alors j'aimerais qu'on prie un instant. Merci Seigneur pour ta grâce, parce que tu as voulu faire de nous tes enfants. Nous voyons tout ce que tu as dû subir, endurer. Et Seigneur, sommes bien conscients que sans toi nous serions perdus, loin de toi, sans espoir, sans solution dans ce monde. Merci d'avoir accepté toutes ces choses pour notre salut. Et tu es vraiment digne de recevoir la louange ce matin, de tout est racheté. Merci Seigneur pour ton si grand sacrifice. Tu es tout puissant Jésus pour sauver encore celui qui est perdu, pour pardonner, effacer les péchés, pour accorder la vie éternelle. Tu vois la souffrance des uns, peut-être la détresse des autres, mais notre Seigneur, nous te faisons confiance. Merci pour ta grâce. Amen.